Chapitre 9e. Hélène ne s'était pas trompée en supposant que le départ du vicaire lui donnerait une certaine tranquillité. À la vérité, ce départ avait soulevé contre elle bien des criailleries parmi les amis des sœurs et dans le monde de Mademoiselle de la Buissonnière. On avait agité toutes sortes de projets qui devaient la perdre. On avait organisé de nouveaux moyens pour lutter contre elle et venger ce pauvre abbé Périchard. Mais après avoir beaucoup crié, on avait peu agi. L'âme de la résistance manquait. Et puis, on n'osait plus trop se risquer, car sans qu'on sût quelles armes elle avait employées contre le vicaire, il y avait un fait qui inspirait de prudentes réflexions. L'abbé Périchard, qui était cependant un homme de résolution, avait été battu par elle. Cela était à considérer. Sans doute, il fallait continuer la lutte et lui rendre le séjour d'Ivranche impossible. Seulement, il était sage de ne pas s'exposer. Tous les coups qu'on pourrait lui porter en restant à l'abri, on les lui porterait. Mais s'il fallait se découvrir, on s'abstiendrait. Et comme les gens prudents s'imaginent volontiers qu'ils sont exposés alors même que rien ne les menace, on s'était généralement abstenu. Cela avait permis à Hélène de respirer, et comme avec le curé, devenu le confesseur de Madame Marguerite, il n'avait plus été question des sœurs de Saint-Joseph, et d'autre part, comme le nouveau vicaire qui remplaçait l'abbé Périchard se tenait sur une sage réserve, elle aurait pour la première fois depuis son arrivée à Ivranche, goûter un peu de repos si M. Leberrier n'était justement à ce moment même devenu de plus en plus pressant. Depuis que le notaire avait fait à Hélène l'honneur de lui déclarer qu'il la trouvait à son goût, ce goût avait passé par des alternatives diverses. À certains moments, M. Leberrier s'était montré plein d'ardeur, comme s'il ne vivait que pour Hélène et ne pensait qu'à elle. Puis, tout à coup, il s'était refroidi, comme s'il renonçait à elle. Puis il était revenu, empressé, puis il était reparti de nouveau, pour revenir bientôt. Si Hélène avait pu facilement remarquer ces effets de baisse et de hausse, elle n'en avait pas deviné la cause, qui cependant était des plus simples. Chaque fois que le notaire avait été repoussé, il avait été chercher des consolations ailleurs, n'étant pas homme, il le disait lui-même, à soupirer vainement. Puis, quand ces consolations, efficaces un moment par la nouveauté, avaient perdu leur influence, ce qui chez lui n'était pas loin de se produire, il avait risqué de nouvelles tentatives, bientôt abandonnées, puis bientôt aussi reprises. Par cela qu'il ne persévérait pas longtemps dans ses poursuites, Hélène s'était imaginé qu'il finirait par se lasser. Mais c'était précisément le contraire qui était arrivé. Au lieu de se lasser, il s'était excité. Et au lieu de revenir à ses idées avec plus de mollesse, il était revenu avec une vigueur de plus en plus obstinée. Comme s'il y avait chez lui du dépit et de la colère. N'était-il pas humiliant pour lui vraiment qu'une fille comme cette institutrice, et la plus belle qu'il eût jamais désirée, résistât à un homme dans sa position qui avait de l'autorité sur elle et qui pouvait la perdre s'il le voulait bien? Soit que ce dépit se fût accru chez lui, soit que le printemps eût parlé, soit que les consolations qu'il avait trouvées en ces derniers temps eussent été médiocres, toujours est-il qu'au moment du départ du vicaire, il s'était montré plus pressant qu'il ne l'avait jamais été. On parlait de l'institutrice, on la blâmait, on l'approuvait. Son nom se présentait à chaque instant dans les conversations, et cela était une provocation pour le délégué, qui venait maintenant inspecter les enfants toutes les semaines, et même quelquefois plus souvent. « Surtout n'oubliez jamais les lois de la morale, mes enfants. C'est sur elles qu'est bâti le bonheur de la femme dans ce monde, le bonheur, l'honneur de son mari et de ses enfants. » Et il débitait ses lieux communs gravement, sans rire, sans gêne aucune, en regardant Hélène d'un air fin qui soulignait chaque mot. « Vous savez, ma chère demoiselle, que c'est pour les imbéciles ces niaiseries-là, nous autres. » C'était là un supplice intolérable pour Hélène, et le notaire lui était un véritable épouvantail. Elle en rêvait. Chaque fois qu'on ouvrait du dehors la porte de sa classe, elle s'imaginait que c'était lui. Bien que sa fatuité naturelle et sa confiance acquise par d'innombrables succès eussent mis sur le nez du notaire des lunettes roses, à travers lesquelles il regardait ce qui touchait ses amours, il n'avait pas pu ne pas voir l'effet qu'y produisait, et si, en commençant, il s'était dit en riant, elle s'adoucira comme les autres. À la longue, il s'était exaspéré, et à ses compliments, il avait commencé à mêler des paroles à double sens, grosses de menaces. Elle avait besoin d'être soutenue. Il ne demandait pas mieux que de tout faire pour elle, mais encore fallait-il qu'elle fît quelque chose pour lui. Elle avait tort de le désespérer. Heureux, il était le meilleur des hommes, malheureux, il était féroce. capable de tout pour se venger. Et quand il parlait ainsi, Hélène se demandait quelle idée les hommes se font de l'amour. Ils s'imaginent donc que, parce qu'ils aiment, on doit les aimer, que l'amour prend naissance dans le cœur d'une femme à volonté, par ordre, par calcul ou par peur. Pour elle, il lui semblait que si elle aimait jamais, ce serait involontairement, sans savoir ce qu'elle faisait, et non parce qu'on lui demanderait son amour. Au reste, il n'était pas probable que cela n'arrivât jamais. Ce seul mot d'amour lui faisait horreur. Ne l'avait-il pas rendue assez malheureuse? Et pourquoi l'aimait-on? Pour sa beauté, disait-on. Alors elle en venait à désirer que les soucis lui fissent blanchir les cheveux tout à coup. Ou bien quelquefois, l'idée lui passait par l'esprit de couper à ses cheveux blonds qui lui valaient tant d'ennemis. L'aide, on la laisserait tranquille peut-être, non seulement le notaire, mais encore tous ceux qui voulaient bien lui faire l'honneur de la trouver à leur goût. Le maître clerc de chez M. Le Beurrier, qui ne passait jamais devant l'école sans friser sa moustache, le percepteur, qui lorsqu'il lui payait son modique traitement, semblait toujours prêt à lui offrir son cœur et sa caisse, enfin tous ceux qui venaient tourner autour d'elle en la regardant avec des airs vainqueurs ou langoureux. Mais cette poursuite du notaire n'avait pas été le seul tourment qui en ce moment était venu troubler la tranquillité que le départ du vicaire semblait devoir lui assurer. En disant qu'elle s'affaiblissait chaque jour, la grand-mère n'avait point exagéré les choses, soit que son changement de vie et d'habitude lui fût mauvais, soit que les inquiétudes de conscience que lui avait inspirées l'abbé Périchard l'eussent profondément troublée, soit toute autre cause, la misère, le travail. Il était évident que cette vaillante santé dont elle jouissait en arrivant à Condé et qui semblait défier la vieillesse, n'existait plus. La pâleur avait remplacé son teint fleuri, elle s'était voûtée et ne marchait plus qu'en hésitant un pas vacillant. Hélène avait voulu appeler le docteur Tarot, mais la vieille femme ne l'avait pas permis. Elle avait pour les médecins la répulsion qu'ont beaucoup de paysans. « Pourquoi veux-tu donner ton argent au médecin ? » avait-elle dit. « Je ne me plains pas. » Elle continuait toujours son travail, et quoi que lui dise sa petite-fille, elle ne voulait pas se reposer. Mais il arriva un matin où elle ne put pas quitter son lit, et quand Hélène, surprise de ne pas l'entendre, car elle était toujours la première levée, entra dans sa chambre et la trouva assise sur son séant, respirant difficilement, le front pâle, les pommettes fortement colorées, les yeux injectés, le visage accusant la souffrance et l'accablement. « Ça ne va pas, ma fille, » dit la vieille femme. « J'ai voulu me lever, mais j'étais obligée de me recoucher. Tout tourne, le cœur me manque. J'ai un point de côté qui m'empêche de respirer. » Hélène, effrayée, envoya chercher le docteur Tarot, qui constata une pneumonie ayant pour cause occasionnelle un refroidissement. Chez un sujet affaibli, produisant peu de chaleur, ce refroidissement, sans être considérable, avait amené la fluxion de poitrine. Il avait bien fallu que la vieille femme se laissât soigner, et à l'exception de ses heures de classe, Hélène s'était installée auprès d'elle pour ne la quitter ni jour ni nuit. Rapidement, la maladie avait pris une allure inquiétante, et Tarot n'avait point caché ses craintes à Hélène. « Nous pouvons la sauver, et je l'espère, mais nous pouvons la perdre aussi. » Et comme elle le pressait de préciser, il avait expliqué que ce qu'il redoutait, c'était l'asphyxie pulmonaire. Mais alors, que faire? Pour le moment, rien d'autre chose que ce que nous faisons. Je reviendrai ce soir. Et si l'état me paraît menaçant, je passerai une partie de la nuit avec vous auprès de notre malade. Au moins, vous ne serez pas toute seule en proie aux angoisses de la peur, sans savoir ce qu'il y a à craindre et sans savoir ce qu'il y a à faire. Hélène avait été touchée de cette offre et de la façon dont elle avait été faite. Elle n'était point gâtée par les témoignages de sympathie. Le soir, Tarot était venu comme il l'avait promis, et sans qu'Hélène eût à lui rappeler son offre, il était resté avec elle jusqu'à 1 heure du matin. Alors seulement il s'était retiré, en disant qu'il n'y avait rien à craindre pour cette nuit. Le lendemain soir, il était venu de même passer une partie de la nuit, et comme Hélène, malgré son désir de le garder, insistait pour qu'il rentrât chez lui, il avait répondu qu'il avait l'habitude de se coucher tard, et que d'ailleurs quelques heures de sommeil lui suffisaient. Comme la veille, il s'était installé dans un des coins de la chambre opposée au lit, et en face l'un de l'autre, devant une table sur laquelle était posée une lampe, la mèche baissée et recouverte d'un épais abat-jour, ils étaient restés causant. Hélène l'interrogeant sur la pneumonie, lui expliquant cette maladie en insistant principalement sur les cas graves qu'il avait guéris. Il parlait à voix basse, et de temps en temps il se taisait tout à coup pour écouter la respiration de la malade, ou bien il se levait pour aller près d'elle. Puis ils reprenaient leur place et continuaient leur entretien, qui courait d'un sujet à l'autre et revenait le plus souvent à eux-mêmes.